Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes.
Au menu aujourd'hui, les Brigades du Tigre. Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses. Allez, place! Bougez-vous là, on se gare, allez, on se gare là. Durant des décennies, il était de bon ton de dire ça des séries françaises.
De toute façon, on n'a jamais su faire des bonnes séries en France.
Ou alors, de dire ça.
Les séries françaises, franchement, ça n'a jamais marché à côté des séries américaines.
Et puis, il y en a d'autres qui disaient ça aussi.
On n'a aucune imagination en France.
Bon, et carrément pire, franchement, très méchant.
Puis les acteurs français, franchement, ça se voit, ils savent pas jouer.
Ça a un petit peu changé de nos jours, mais on peut quand même continuer d'entendre dire ce genre de choses.
Ils savent pas écrire, franchement, vous avez vu, ça sonne faux.
Et ce parti pris, même s'il est fortement atténué, s'il ne tient plus trop la route depuis une dizaine d'années, donne tout de même naissance à des remarques du style...
Oh non, moi de toute façon, je regarde plus les séries françaises depuis longtemps, ils font que des remakes.
Alors, ici, dans Previously, on vous a démontré le contraire. On a déjà parlé d'Engrenage, d'Un village français, de H, de Shérif, de 10%, bref. Une bonne série n'a pas de frontières, mais de bons créateurs. Bon, cela étant dit, on ne peut pas non plus nier que la création télévisuelle de fiction en France, dans les années 60, était quand même très méprisée par le milieu cinématographique, et que, Téléast, vous n'étiez pas non plus très respecté par le RTF. Mais tout de même, tant bien que mal, la télévision française devient le terrain de prédilection pour deux genres qui, plus que les autres, séduisent le public, créent l'événement et sont d'une immense popularité. La série policière, tout d'abord. Ah ouais, vous avez reconnu le générique, hein. Le crime, l'enquête, les indices, les meurtriers. Depuis l'agence Nostradamus, le premier feuilleton de l'ORTF, réalisé par Claude Barmin et diffusé en octobre 1950, jusqu'aux cinq dernières minutes. Initialement un jeu policier, avec même des candidats aux côtés du commissaire Bourrel. On a toujours été passionné par le sujet. Philippe Nicot a été l'inspecteur Leclerc, Roger Rudel était le commissaire Picard qui enquêtait sur l'abonné de la ligne U, et Jean-Louis Trintignant monte dans le train bleu qui s'arrête 13 fois. Ben pour une série de, ben vous aviez compris, 13 épisodes. Et en ce qui concerne les plus grands succès de la télévision française en 1967, eh ben c'est une série qui s'appelle Allô Police. Ah ouais, franchement, tout est dans le titre. Je pourrais aussi vous citer les très ronronnantes enquêtes du commissaire Maigret avec Jean Richard, ou un peu plus tard, le commissaire Moulin avec Yves Régnier. Quant au second genre qui dominait les séries françaises, c'était la série historique. De Rocambole au Chevalier de Maison Rouge, le feuilleton historique est sans nul doute l'équivalent du western à la française. Il bénéficia déjà d'une infrastructure bien au point auprès des studios comme ceux de la SFP au but de Chaumont. Décors, costumes, ben tout s'y trouvait. Et là encore, on y voyait Jean Piat dans La Gardère, Patrick Devers dans Jean de la Tour Miracle et de luxueuses sagas comme celle de Thibault les Croisades tournée en Tunisie et qui passionnait les spectateurs. Alors, mélanger ces deux genres, où non seulement on a, nous, Français, notre spécificité, mais où on a aussi l'intérêt du public et les moyens de production adaptés, ben c'est une bonne option. Pour être honnête, ce n'est pas la première fois non plus. Rouletabille, dès 1966, avec Philippe Auguste, et Les Nouvelles Aventures de Vidocq, en 1971, avec Claude Brasseur, nous présentaient des enquêtes menées par des reporters ou des divisions de la police, mais qui se déroulaient dans un siècle passé, en costume, dans des décors se voulant d'époque. Mais ce projet-là, qui lui aussi mélangeait les deux genres, avait un petit quelque chose de différent. Ce projet-là a le grand avantage de faire penser à une autre série américaine, celle-ci, Les Incorruptibles. Une production en Queen Martin avec Robert Stack dans le rôle de Elliot Ness et son équipe de flics au sein d'un Chicago où règnent les gangs et la prohibition. Incroyablement populaire en France, et cela bien avant de devenir le film de Brian De Palma, la série The Untouchables, Les Incorruptibles, a marqué toute une génération par sa violence, son style film noir et ses voitures d'époque. Alors, de constituer une équipe de policiers qui soit à l'opposé de la police corrompue des années 1900 et qui traque le crime avec des moyens bien plus efficaces que la course à cheval, cela fait immédiatement penser à des incorruptibles à la française. Un slogan bien pratique pour faire les titres des journaux télé. L'homme qui pense donc à faire ces incorruptibles des années 1900, c'est Claude de Sailly, un scénariste qui a déjà écrit des mini-séries comme « L'homme qui revient de loin » d'après Gaston Leroux, ainsi que de nombreux films comme « Les Polars » avec Eddie Constantine et les films de Robert Hossein comme « Point de chute »,« Le vampire de Düsseldorf » ou « J'ai tué Raspoutine » aux côtés de Alain Decaux. Et c'est justement ce même grand historien vulgarisateur, Alain Decaux, qui est à l'origine d'une série qui aurait dû faire 300 épisodes, engager les comédiens pour 5 ans et se tourner dans un village spécialement construit pour l'occasion. Eh ouais. En tout cas, c'est ce que le créateur de La tête et les jambes et de La caméra invisible lui avait promis. Intrigué ? Alors vous allez voir. Allez, reprenons la route. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme embouteillage ? Claude de Sailly a aussi écrit des séries télé comme Michel Strogoff, Mathias Sandorf et la série de science-fiction Les Visiteurs, avec les deux extraterrestres qui se réincarnent dans un couple de terriens. Il nous a quittés en 2009. Mais en 1996, j'avais eu l'honneur de le recevoir dans l'émission que je faisais Destination Série. C'était son 102e numéro, après Star Trek et Friends, donc c'était carrément le décalage. J'avais décidé de rendre hommage à l'une des plus formidables séries françaises, Les Brigades du Tigre.
Bonjour Monsieur de Sailly, merci d'être parmi nous pour parler de cette série mythique, Les Brigades du Tigre, qui compte 36 épisodes, qui a démarré en 1974 à la télévision française, et qui, à l'origine, avait bien sûr vous comme créateur, mais aussi deux personnes qui ont été associées à ça, et ça peut paraître curieux, c'est Alain Decaux et Pierre Belmar. Alors, pourquoi ces deux personnes? Comment ils sont intervenus là-dedans?
Oh, ben, c'est simplement parce que j'avais eu l'occasion de tourner un film avec Decaux comme co-scénariste. Et bon, ils avaient envie, soudain, bon, avec son, vous savez, qu'ils sont très liés.
J'ai tué Raspoutine.
J'ai tué Raspoutine, oui, oui. Faut le dire.
Monsieur disons-le. Cinéma.
Disons-le, c'est dit, j'ai tué Raspoutine. Et puis, le hasard a fait que j'avais une idée d'une série policière par la suite de la lecture d'un livre, d'un vieux commissaire, le commissaire Belin. Et puis, Alain m'a téléphoné pour me demander si éventuellement j'avais une idée de série policière, parce que le cher Belmar voulait passer à la grande production. Alors, il a trouvé l'idée que je lui ai résumée d'une série policière sur la police française, une nouvelle police française en 1907. Il a trouvé l'idée formidable, je dois dire, et puis malheureusement, avec Belmar, il a voulu d'abord partir avec des visées trop grandes.
Il a voulu le faire à l'américaine avec 50 productions.
Il a dû très vite revenir en arrière. Et puis, comme il n'a pas pu faire le sujet, il l'a laissé à l'ORTF. Il l'avait déposé à l'ORTF, ce qu'il m'a dit.
Et là, c'est resté à l'ORTF pendant combien de temps?
Alors là, ça a dormi trois ans. Bon. Je téléphonais périodiquement pour demander si ça les intéressait. Oui, c'est un sujet très bon. On en parlera à la prochaine conférence de production. Et puis, les mois passés, je rappelais timidement, parce que j'ai jamais osé m'imposer nulle part. Excusez-moi, mais pas à propos de cette série. Ah oui, mais bien sûr. Puis ça a duré trois ans, jusqu'au moment où, je faisais un feuilleton pour Télécip. Et puis, Roland Gritti m'a demandé si j'avais pas une idée. Je dis si, mais elle est déjà depuis longtemps à l'ORTF. Ils en veulent pas, mais ça fait rien. Alors hop, lui il est reparti, il y a mis le paquet, lui il savait vendre ce que j'ai jamais su faire de ma vie. Et puis brusquement, après trois ans de silence, ça les a intéressés et on est partis. Et puis après, vous savez le succès que ça a eu.
Monsieur Clémenceau, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux.
Ah ça, le succès, c'est le moins qu'on puisse dire quand même. Hein. C'était pas un succès, c'était un triomphe. Un engouement qui a donc duré à chaque nouvelle saison, 6 en tout, durant près de 10 ans et qui perdure encore de nos jours. La plateforme Madeline, qui propose les contenus issus de l'INA, a fait restaurer la série en partant des films 16 mm d'époque et a déjà mis en ligne les 4 premières saisons des Brigades du Tigre. Foncez les voir. Bon allez, en voiture, hein. On approche maintenant de l'année 1907. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme monde quand même ! Mais les embouteillages, c'est tout le temps, c'est dingue, hein ! En ce début de siècle, la belle époque cède le pas donc à l'ère industrielle. Oh, et puis finalement, le narrateur de la série vous racontera les choses tout aussi bien que moi, et sûrement même mieux. Donc ?
Les structures traditionnelles de la vieille société se brisent chaque jour davantage derrière la façade de la belle époque. La criminalité augmente dans des proportions d'autant plus inquiétantes qu'une délinquance nouvelle est née, qui s'appuie, elle, sur le progrès technique et fait échec à une police archaïque dont les méthodes et le matériel n'ont guère évolué depuis Vidocq. Un chiffre est plus éloquent que tout. Au cours de l'année 1906, 103 000 affaires criminelles et correctionnelles ont été classées sans que les auteurs aient pu être identifiés. L'année 1907 s'annonce pire encore. Il y va de la sécurité des villes et des campagnes. C'est alors que le 28 février 1907, le député André Bonnerive fit une interpellation remarquée à la Chambre. La réponse du gouvernement ne se fit pas attendre. Le 4 mars, Georges Clemenceau, ministre de l'Intérieur, publiait le premier d'une série de décrets qui mettait sur pied un corps de police d'une inspiration inédite, les brigades mobiles. Une ère nouvelle commençait.
Eh oui, 12 brigades qui étaient mobiles, car elles possèdent surtout le droit de suite, à savoir de poursuivre une enquête sur tout le territoire. L'identification par les empreintes digitales, c'est-à-dire ce qu'on appelait le bertillonnage, la constitution d'un fichier criminel, un système de télécommunication portable, l'équivalent des téléphones de voiture, tous les balbutiements d'une technologie au service de la recherche des indices et de l'enquête criminelle. Des moyens modernes d'investigation, quoi. On entraîne aussi ces équipes aux techniques de combat, comme la savate ou la boxe française. Mais pour pouvoir se défendre, c'est quand même plus pratique. On les entraîne aussi au tir et à d'autres méthodes pas encore bien connues. Elle s'appelle par exemple le jiu-jitsu, un truc comme ça. Mais par-dessus tout, on équipe les brigades. Fini les bicyclettes, fini les chevaux. Maintenant, ils ont des moteurs.
Bon, mes amis, vous voilà armés, équipés, organisés, comme n'a jamais été service de police judiciaire. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses. Dans mon service, je n'admettrai aucun fiasco. Il me faut des résultats.
Ces incorruptibles à la française vont donc se lancer sur la piste du crime. Bande organisée, société secrète, criminel évadé, homme d'État en danger, tueur en série, saboteur industriel. Bref, bon, vous avez compris. Hein. Dans chaque épisode, les brigades vont intervenir pour éclaircir un important mystère, voire même pour établir l'ordre national. Et même sauver la France en danger. Pas moins que ça. Et la bonne idée, c'est d'inclure dans la trame policière tous les changements qui ont marqué ce début de siècle. Qu'ils soient politiques, comme l'organisation d'extrême droite dite de la Main Noire, ou des jeunesses patriotes de Pierre Tattinger, ou un réseau de call girls qui font chanter les hommes politiques. Ou bien il s'agit d'évolutions sociales, comme avec les suffragettes qui ont bel et bien existé, et qui dans la série ont été montrées avec deux vieilles demoiselles, Gertrude et Rosemonde, qui enlèvent des députés pour obtenir d'eux le droit de vote des femmes. Il y a des visites diplomatiques prestigieuses, telles celles incognito du prince de Galles à Méliès. Il y a aussi les rencontres au sommet et l'exposition des trésors de pays lointains, ainsi que les exploits historiques, comme par exemple la traversée de la Manche par Blériot.
L'appareil de Blériot. Faut le faire atterrir immédiatement.
Ah bon ? Ah bah tiens, l'avion de Blériot a été saboté ? Ah bon, c'est vraiment vrai ça, monsieur Desailly ?
Bah si, pour répondre honnêtement, non. Encore que. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait à ce moment-là, mais il y a eu effectivement un incident mécanique sur l'avion de Blériot, pas le jour du départ, mais il y a eu un petit truc, enfin... Je me suis servi d'un détail pour aller beaucoup plus loin. En fait, faut pas exagérer.
En fait, comment ça se passait ? Vous partiez des éléments historiques de... et vous brodiez autour
Voilà, exactement ça. C'est-à-dire que je me suis toujours servi, non pas d'une anecdote, mais d'un fond historique. Toutes mes histoires sont évidemment totalement inventées, mais elles partaient toujours d'un contexte. Il y a l'avion de Blériot, par exemple. Je ne sais pas si j'ai une seconde pour vous dire que j'ai d'ailleurs reçu une lettre d'un monsieur à l'époque, un spécialiste de l'histoire de l'aviation, qui m'a écrit une lettre très sérieuse. Mais je ne savais pas tout ce que... Où avez-vous trouvé ces documents sur le sabotage de l'avion? Ça m'intéresse beaucoup de voir. Alors, comme c'était un monsieur très aimable, je lui ai répondu que, c'était des affabulations. Quand on a commencé, je m'imaginais qu'après avoir lu ce livre qui m'a inspiré, les mémoires du commissaire Belin, je me suis imaginé qu'en allant aux archives de la Sûreté nationale, j'allais trouver des documents sur les vieilles affaires qui allaient être passionnantes. En fait, seul fut, mais vous allez le voir par la bande, parce qu'en fait, je n'ai pas trouvé d'histoire très intéressante. J'ai trouvé des histoires de vol de lapins, de poulets dans des poulaillers commis dans des provinces. L'avantage des brigades mobiles, c'est qu'elles avaient le droit de suite pour la première fois. C'est-à-dire qu'on n'était pas obligé, une brigade de gendarmerie n'était pas obligée de passer à la brigade d'à côté pour poursuivre des bandits. Mais par contre, ça a eu un intérêt pour moi. Si je n'ai pas pu trouver ce que je cherchais au point de vue anecdote, j'y ai trouvé par contre des documents, et je dois dire à ma grande honte, je pense qu'il y a maintenant prescription et qu'on ne vient pas me sortir ici des menottes au poing. J'avoue à ma grande honte et en même temps satisfaction, j'ai volé un document à la Sûreté nationale. Et ce document, ils vont sur le pesant de moutarde. Je vais vous le montrer. C'est le premier bulletin de la police criminelle. Il est authentique. Et je vais vous le montrer pour vous en disposer. Voir que c'est un document vraiment authentique que, je dois dire, j'ai subtilisé dans les archives de la Sûreté nationale et qui est, vous voyez, une chose très importante, parce que c'était le numéro 1, parce que ça n'existait pas avant. Avant, il n'y avait pas ce bulletin de recherche qui concerne toute la France. Il y a tous les photos, les renseignements sur tous les bandits qui sont recherchés à l'époque. Et avant, c'était la mémoire des vieux qui avait simplement, qui répondait et qui remplissait cette fonction. Alors ça, je ne suis pas mécontent, ça m'a servi au moins à ça.
Alors, vous ne pouvez pas le voir, mais oui, Claude Desaillies nous brandissait en effet le premier bulletin de la police. Car oui, ces brigades de police, sorte de super enquêteurs à qui on confiait les enquêtes décisives et importantes, n'ont en fait jamais existé. Les équivalents de Valentin, Pujol et Terrasson couraient des gredins bien trop insignifiants pour en faire une série passionnante. Bah justement, tiens, parlons-en de Valentin, de Pujol et de Terrasson. C'est en particulier une petite section de cette brigade qui va devenir le centre de la série. Trois héros complémentaires et particulièrement obstinés qui mèneront à bien les enquêtes les plus périlleuses. Une troupe de choc. À leur tête, on trouve un jeune homme qui vient tout juste de monter en grade. Un policier honnête, un peu mal dans sa peau, que Desaillies a basé sur le commissaire Belin dont il lisait les mémoires et dont il vient de nous parler. Un homme qui a immédiatement postulé pour rejoindre les brigades mobiles. Paul Valentin, c'est donc l'enquêteur, le Sherlock Holmes de l'équipe. Pujol, lui, c'est le jeune homme d'action qui s'infiltre dans le milieu en changeant souvent d'identité. Le policier un peu en immersion, quoi. Et puis, il y a l'homme fort, Terrasson, le colosse de Rodez, le méridional, qui est le pendant du titi parisien qui était Pujol. Et pour tenter de contrôler ses têtes brûlées, parce qu'il faut quand même bien un petit peu les contrôler, il y a Fèvre, incarné par François Mestre, un supérieur qui n'a pas le caractère facile. Pourtant, ça ne signifie pas qu'il n'a pas de cœur. Il se préoccupe de ses policiers quand ils sont en danger, et si vous regardez bien la série, sur son bureau, il y a toujours une rose. Il en prend le plus grand soin. Donc c'est un tendre. Et Fèvre, c'est le nom du bien réel premier patron des brigades mobiles de Paris.
J'avais l'idée des personnages, parce que j'en connaissais deux d'entre eux, Jean-Paul Tribou et Pierre Maglon, que j'avais déjà dans le collimateur depuis un certain temps, parce que je les appréciais beaucoup. Et ça m'a donné l'idée de faire le petit parisien, et puis le provençal un peu poète, parce que c'était l'ancien petit bobo, le conteur de la contrescarpe. Et puis Bouillon, je ne le connaissais pas à l'époque, mais j'avais vaguement dans l'idée d'un personnage comme ça, plus placide, plus calme. C'est le chef, quoi, un peu beau garçon qui peut séduire les dames. Et puis donc, ils ont été un peu surpris, parce que quand j'ai écrit la première série et que j'ai eu affaire à eux directement sur le plateau, je leur ai dit, voilà, moi je ne suis pas un auteur qui a conçu un personnage comme par exemple Simenon pour Maigret, j'ai conçu des histoires. Et il me faut un fil pour cette histoire, et le fil c'est trois policiers. Mais j'ai je les ai définis un peu physiquement et puis un peu mentalement, en sorte qu'il y a le petit malin, il y a le grand provençal. Maintenant, le reste, c'est à vous de le faire. Moi, je n'ai pas, pour l'instant, défini totalement les personnages. Je me suis intéressé aux histoires. Et alors, ils ont amené chacun leur tempérament. La deuxième série, ça a été plus vite fait parce que je les connaissais. J'ai donc écrit en fonction d'eux. Puis, ils ont joué en fonction de ce que j'écris.
Initialement, le trio de personnages devait être incarné par Michel Creton, Marco Perrin et Alain Pralon. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront concernant les deux premiers acteurs, vous les connaissez bien. Hein, Michel Creton, Marco Perrin, voilà. Le troisième, cependant, à savoir Alain Pralon, eh ben lui, il a fait pas mal de théâtre et des adaptations télé de grands classiques comme Les Fourberies de Scapin, Le Jeu de l'amour et du hasard ou Le Malade imaginaire. Et d'ailleurs, il tiendra un rôle dans un épisode de la saison 3, sans doute en compensation du rôle principal qu'il aurait dû avoir. C'est la femme de Victor Vicas, le réalisateur, qui avait vu dans une série, Alexandre Bis, l'acteur Jean-Claude Bouillon. Et cet acteur, eh ben, elle l'avait trouvé formidable. Et elle a réussi à convaincre aussi son mari. Outre Alexandre Bis, Jean-Claude Bouillon avait joué dans des films de Roger Vadim et d'André Cayatte, par exemple. Et après la série, il tint un rôle dans Les Roses de Dublin, dans Les aventures du jeune Patrick Paccard, dans un épisode des Young Indiana Jones Chronicles, eh ouais, et dans la mini-série Hemingway, aux côtés de Stacy Keach. Jean-Paul Tribou, lui, qui incarnait Pujol, est non seulement un acteur, mais aussi un metteur en scène pour le théâtre, et c'est aussi un auteur. Quant à Pierre Maglon, ou Petit Bobo, comme il se faisait appeler quand il faisait du cabaret, et a tourné dans des films de Buñuel, dans Vincent, François, Paul et les autres, de Claude Sautet, ou même dans Garde à vue, de Claude Miller. Au fil des saisons, et grâce à cette implication des acteurs dans leurs personnages, Desailly les humanise de plus en plus. Il crée des aventures sentimentales ou des flirts pour les uns ou les autres. Terrasson va même jusqu'à aller au mariage dans le tout dernier épisode de la série.
La santé des jeunes mariés.
Et la santé des brigades du Tigre.
Caprice de la destinée. Un dénouement des plus imprévus pour une affaire qui aurait pu mener Terrasson au fond d'un lac et le conduisait finalement au gouffre insondable du mariage. Sort plus enviable ? Qui sait ?
Après 4 saisons absolument triomphales, la série fait un bond dans le temps. La 5e saison des Brigades du Tigre a fait l'impasse sur les guerres de 14-18, parce qu'il y avait un peu trop de différence avec ce qu'a été la réalité des brigades mobiles pendant la Première Guerre mondiale et ce que la série raconte. Desailly nous avait dit que les brigades mobiles avaient été recrutées pour être des mouchards auprès de l'armée française, en dénonçant les rébellions et les désertions, donc très loin des héros de la série.
Après 4 années de guerre impitoyable, la paix est enfin revenue sur le monde. Georges Clémenceau, le créateur des brigades mobiles, surnommé le Tigre avant la guerre, est devenu pendant celle-ci le père la victoire, avant de prendre en 1919 une retraite bien gagnée. Mais ces fameuses brigades, elles, sont plus vivantes que jamais dans ces années troubles d'après-guerre.
Dans cette nouvelle saison, ce sont donc des nouvelles brigades du Tigre que l'on découvre. Et parce que la série est maintenant coproduite avec l'Allemagne, les trois héros ont dorénavant un nouveau patron, Gabrielli, incarné par Pinkas Brown, un acteur vu dans de nombreuses séries allemandes. En effet, Fèvre a pris sa retraite.
Vous avez des nouvelles, vous ?
Oui, oui, il paraît qu'il passe son temps à la pêche.
Eh bien, tu vois, j'aimerais pas être poisson dans son état.
Ah, attention, j'entends Gabrielli.
Excusez-moi de vous avoir fait attendre, messieurs. J'étais en communication avec l'Élysée. Mais asseyez-vous, je vous en prie.
Mais pourtant, puisqu'on arrive à la même période des Incorruptibles en 1929, et puisqu'ils sont l'inspiration de cette série française, les brigades vont donc, dans un épisode, collaborer avec leur illustre collègue américain.
Dépêche-toi, il y a un appel téléphonique pour toi des États-Unis.
Les États-Unis ?
Oui, le FBI, Fédéral Bureau d'Investigation.
Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Qu'est-ce qu'ils veulent ? J'en sais rien, ils parlent anglais, figure-toi.
C'est impressionnant.
Non, tout ce que j'ai compris, moi, c'est que le type qui te demandait, c'est un certain Elliot Ness, c'est ça, tu connais ?
Non, jamais entendu parler.
Amusant, non ? Et ouais, dans ce même épisode, il y a aussi celui qui a joué dans pas mal de films policiers, écrit par Claude Desailly, souvenez-vous, Eddie Constantine. Et oui, là, il tient le rôle d'un lieutenant d'Al Capone envoyé en France pour lancer un trafic de champagne et de cognac à destination des États-Unis.
Il ne m'intéresse pas qu'au boxing business, vous savez.
Ah oui, à quoi d'autre ?
J'ai d'autres intérêts.
On peut savoir lesquelles?
Les femmes et le champagne.
Ça, les femmes, vous en avez aussi en Amérique, tandis que du champagne.
En y mettant notre prix, on trouve.
Champagne français?
Naturellement.
Hommage ultime, et là on sent bien que Claude Essailly s'est amusé. L'épisode se termine par un affrontement à coups de mitraillette, exactement comme dans la série américaine.
Sortez-vous !
Puis la sixième saison de la série, en 1983, se déroule, elle, de 1925 à 1930. Elle a pour sous-titre « Les années folles ».
Alors, ça a eu un tel succès en France, je suis sûr qu'après ces six premiers épisodes-là, on vous a fait des ponts d'or, vous avez eu un budget faramineux pour les épisodes qui ont suivi.
Oh, vous pouvez pas savoir, ça, on a été de gloire en gloire. Parce que la première série, on n'avait pas eu beaucoup de moyens, puisque c'était, bon, c'était un essai, on ne savait pas où on allait. Et alors, le succès de la première série a été, je dois dire, plus ou moins inattendu, mais enfin considérable. Et on s'est dit, avec Vicas, on s'est dit chouette, parce qu'on avait tellement renié surtout pour faire la première série, que devant le succès, la deuxième série, on va nous débloquer un peu les crédits, on va nous permettre de respirer.
Oui.
Et on a eu la surprise que les décideurs d'Antenne 2, à l'époque, nous ont dit, mais pas question. Pas question.
Ah bon.
Vous comprenez, nous faisons des produits. Ils continuent d'ailleurs, mais maintenant c'est de plus en plus... Bon, ben, pas de commentaires là-dessus, je ne crache pas dans les soupes. Mais le principe est le suivant, on a fait une première série qui a bien marché, donc le public est accroché. Le public est accroché, on n'a plus besoin de se donner le mal, je ne parle pas au niveau de l'écriture, mais au niveau de la réalisation, on nous a même réduit les crédits en disant que le produit était vendu, eh ben qu'on n'avait plus besoin d'argent.
Initialement, chaque épisode était tourné entre 13 ou 14 jours. Et comme Claude Desailly vient de nous le dire, un peu moins pour des raisons budgétaires dans les deux dernières saisons. Les intérieurs étaient érigés chez Télésip, une maison de production qui avait déjà œuvré pour énormément de séries françaises, d'aux frontières du possible aux nouvelles aventures de Vidocq en passant par La Demoiselle d'Avignon. Tout comme Desailly est l'unique scénariste de tous les épisodes, Victor Vicas en est le seul réalisateur. C'est un réalisateur qui avait aussi travaillé sur Aux frontières du possible, encore, L'étrange monsieur Duvalier et Les aventuriers du Nouveau Monde. Un des éléments aussi essentiels que les mitrailleuses des Incorruptibles étaient les voitures des Brigades du Tigre. Elles venaient toutes du musée de Briard et de la régie Renault à Boulogne-Billancourt. Il y en avait près de 12 pour la série et d'autres qui étaient là simplement en décor dans les rues. Mais il y en avait 12 qui fonctionnaient réellement. La série était tournée souvent à Orléans, dans sa région, dans le Loiret, quelquefois du côté de Namur ou de Carpentras, ainsi qu'à La Rochelle. Elle donnait vraiment l'impression d'être un document d'époque, parce que tout y était, les bals populaires et même le chanteur des rues. Alors écoutez bien, parce qu'ici, le chanteur des rues, il est un peu particulier. Il s'agit de Claude Bolling, le compositeur de la musique de la série. Écoutez-le.
Tremblez, bonnes gens et grisettes, car quand vient la nuit, c'est l'heure.
La musique de la série est justement remarquable. Et il m'a semblé important de rendre hommage à son compositeur, celui que vous entendez en ce moment, Claude Bolling. Il s'est éteint il y a quelques semaines, en décembre 2020. Claude Bolling était spécialisé dans le jazz, mais pas que. Car en plus de ses compositions et de ses prestations dans le genre, il a fait aussi de la pop musique. Tenez, écoutez ça. Ouais. Le groupe yéyé des Parisiennes, ben c'est lui. Enfin, c'est pas lui qui chante, hein. C'est lui qui les avait créés, qui écrivait leurs chansons et qui supervisait leurs prestations. Et c'est même avec elle qu'il va composer et enregistrer un morceau qui va rester de 1966 à 1982. Réarrangé quand même, mais quand même, bien présent, il va rester. Écoutez bien.
24 heures sur 24, on écoute la radio, on est
Ah ouais, souvenir, hein. C'est le thème musical, le jingle, si vous voulez, de France Inter. Eh ben, c'est lui qui l'a composé, et c'était les Parisiennes qui en chantaient la chanson. Il composa une centaine de musiques de films, du Gitan au Magnifique, et son morceau le plus célèbre fut sans nul doute celui de Borsalino. Si les Brigades du Tigre avaient pu s'offrir Claude Bolling pour sa musique, l'autre Claude, Claude Desailly, a écrit lui tous les épisodes seul, même si au moment des Nouvelles Brigades du Tigre, on lui a imposé d'écrire avec Lou Durand pour 3 épisodes. Alors Lou Durand, qui a été aussi en 1990 scénariste du film Dancing Machine avec Claude Brasseur et Alain Delon, et qui a été l'auteur de très nombreux ouvrages, mais des ouvrages qui ont été signés Paul-Lou Sulitzer. Voilà, vous voyez de qui il s'agit. Les Brigades du Tigre clôturent leur saison 6 en novembre 1983. Et de façon assez prophétique, la narration qui conclut le dernier épisode pose un regard sur le passé et sur l'avenir.
De toute façon, nos héros en ont vu bien d'autres au cours de leur aventureuse carrière. Tant de dangers surmontés en commun, une solide amitié forgée par le temps. Et oui, cela c'est le passé. Et l'avenir, en un pareil jour, il ne convient pas encore de répondre à cette question.
Ah ouais, c'est très sibyllin. Mais à l'époque, il n'y avait aucune assurance pour une saison suivante. Ça tombait sous le sens, mais rien n'était fait. Et alors que la saison était déjà écrite par Claude Desailly lui-même.
Ben oui, 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 c'est encore une de mes épines dans le cœur ou dans le pied, je ne sais pas où vous situerez la douleur. Mais en effet, on m'a commandé, il faut bien dire que des circonstances ont été telles qu'on a eu en effet un très gros succès. Et à la fin de la sixième série, qui s'était terminée un peu en apothéose, la chaîne m'a commandé une septième saison, puisqu'on dit saison, maintenant de mon temps, on dit ça, une septième saison, que j'ai écrite. Et avec grand plaisir, puisque là, on a abordé de 30 à 35, on allait un peu plus loin dans l'histoire. Et puis, elle a été écrite, reçue par la chaîne, acceptée par la chaîne. C'était il y a 10 ans, ça. Et puis, je n'ai plus jamais entendu parler de rien. On recommence comme au départ.
La série disparaît, donc. Mais peut-on parler de disparition pour une série qui, graduellement, est devenue, à juste raison, culte ? Alors ouais, je sais, le terme est très souvent galvaudé, mais là, si presque 40 ans plus tard on revoit encore la série avec autant de plaisir, bah c'est bien la preuve que le mot culte s'applique. Parce que, se déroulant dans le passé, elle ne se démode pas. Et parce que grâce à ses auteurs, Claude Desailly et Victor Vicasse, elle bénéficie d'un rythme soutenu sans temps mort. Et oui, il y a aussi la complicité entre les interprètes, il y a aussi les voitures, il y a la musique, bref, ça forme un tout. Si de nos jours, Madeleine peut sans complexe vous la proposer, c'est en grande partie pour ça. Et la série compte trois successeurs. Un film, tout d'abord. Ouais, parce que y a pas que les Américains qui adaptent les séries au cinéma. Nous aussi, on l'a fait avec Vidocq, Les Chevaliers du Ciel, Belphégor, et même un Absolutely Fabulous qu'on préfère oublier, avec Josiane Balasco et De Sinistre Mémoire. Mais en 2006, Valentin, Pujol et Terrasson font donc face à la bande à Bono. Mais cette fois-ci, c'est sur grand écran. Et ils sont incarnés par Clovis Cornillac, Édouard Baird et Olivier Gourmet.
Bon, Terrasson, Bianchi, direction la sûreté.
Messieurs, vous avez été choisis pour intégrer la première brigade mobile. Vous n'aurez plus qu'un objectif, assurer la sûreté de l'État.
Voilà l'artiste.
Oui, ça ressemble à rien, quoi.
Les truands, les souteneurs, les anarchistes, vous allez les secouer, vous allez les coffrer, vous allez les remettre. Alors juste place au glou.
En 2009, c'est un autre descendant, mais indirect, des Brigades du Tigre, qui démarre sur France 2. Nous sommes en 1920 et Julien Valour va être aux commandes d'une unité de la police parisienne. Unité qui va aller encore plus loin que la brigade de Valentin et qui est en train d'imposer la science comme nouveau moyen de résoudre des enquêtes. Mais pour l'instant, ils sont relégués au grenier de la PJ.
Le grenier de la PJ est à vous. Il faudra sans doute faire un peu de ménage. Installer des bureaux, monter du matériel, mais c'est un début. Les policiers lyonnais ont un pseudo-laboratoire depuis des années. Les Parisiens vont en avoir un vrai, grâce à nous. Vous faites pas cette tête. Ça fait longtemps que vous ressassez l'idée de monter votre unité spécialisée. Alors, vous gardez Marius et Marthelot. Quant à Léa Perlova, elle est d'accord pour travailler avec vous en tant qu'experte indépendante.
La série, très ambitieuse, a pour titre « Empreinte criminelle ». C'est une sorte de version des experts, mais côté français. Malheureusement, elle ne durera que 6 épisodes. Et après la suite historique, il fallait bien le préquel. Et ben le voilà.
Dreyfus va être rejugé. La moitié de la France va devenir folle à cette occasion. Où serez-vous, monsieur, quand votre pays aura besoin de vous ?
Vous êtes doué pour une amatrice. C'est ce qui vous perdra.
Attention, la dernière fois que j'ai fait l'amour à un homme, il en est mort.
Et en plus, elle est coquine.
C'est la nouvelle série de Canal+, et elle se déroule quelques années avant les Brigades du Tigre. Paris Police 1900 nous présente une version très différente, une police corrompue, Un pays divisé où règne l'antisémitisme, un pays dont le président, Félix Faure, vient de mourir alors qu'il était en plein débat avec sa maîtresse, un pays où les femmes s'adonnent aux injections de drogue en compagnie de leurs amis de la haute. Voilà ce que le créateur et showrunner de cette série, Fabien Nury, nous en disait.
Une des premières idées qu'on avait, c'était qu'on voulait faire une série qui ne soit pas du tout nostalgique. L'idée centrale pour nous, thématique de la série, c'est l'existence et la nécessité du progrès. Donc la proposition thématique, elle est simple, c'était pas mieux avant. Vous voyez, aujourd'hui on vit une période difficile, complexe, troublée. Mais en fait, on en a vécu d'autres et on est passé à travers. Et pour moi, c'était important de dire ça. Et la deuxième chose, c'est effectivement cette espèce de dureté folle, j'ai presque envie de dire parfois de barbarie de la période. Moi, elle m'a sauté aux yeux quand je me suis documenté. J'ai essayé de restituer ce que j'avais vu, ce que j'avais lu. Et donc, la violence politique insensée, la violence conjugale insensée, l'incroyable, si vous voulez, dureté même du droit de l'époque, c'était des choses qui paraissaient essentielles pour rendre le tableau de cette période. Et d'autant plus qu'on ne voulait pas faire quelque chose de, entre guillemets, compassé, patrimonial. Et on a très vite vu que la période elle-même, la Belle Époque, ne se voyait pas comme belle. Elle s'imaginait, à travers les polars de Souvestre et Alain, de Leblanc et de tant d'autres auteurs, elle s'imaginait comme un polar violent et tumultueux. C'est l'époque du Grand Guignol au théâtre, c'est l'époque de l'engouement pour les faits divers de la part du public. Donc c'est presque la naissance du genre polar aussi. Donc tout de suite, on avait eu envie d'avoir une vision strictement polar, et j'ai plus envie de dire même roman noir de la Belle Époque.
Voilà, bref, la face sombre des Brigades du Tigre, en quelque sorte. Et bien sûr, comme les années passent, il est envisagé qu'à un moment, dans de futures saisons de cette Paris Police 1900, la police rétrograde et ambiguë de cette époque soit confrontée de plein fouet aux idéalistes constituant la très moderne Brigade du Tigre.
Incognito, vos flics maintenant sont devenus des cerveaux. Grands ni gros, ils ont laissé leur vélo, leurs chevaux en torpedo, de vrais casse-cou à 35 au chrono. Psieu Clémenceau, c'est plus réglo, c'est la mort du boulot. Pendant ce temps-là, dans vos salons, pour voir des horreurs qui ne vaudront.
Ah, moi j'ai repris la route, hein. Parce que moi aussi j'ai ma brigade, mon Pujol et mon Terrasson à moi. Ah, place. L'un, c'est Jacques Baudoux, un auteur et responsable des rencontres européennes de télévision de Reims pendant des années. Son travail et ses recherches sur la série, entre autres dans l'ouvrage Meurtre en série, m'ont été d'une grande aide pour ce podcast. Et l'autre, c'est Alexandre Letraine de VL Media qui a joué les bâcheurs des séries françaises au début de ce programme. Bon, c'était un rôle de composition. Oh là là, désolé, oh là là, j'ai du boulot là, oh là, ça tire de partout. Mais j'ai des brigands à appréhender et je m'entraîne pour le prochain Previously parce que nous partirons dans le New Jersey à la rencontre, oh là ça tire, à la rencontre d'une famille de brigands. Tony, Carmela, Oncle Junior, Christopher, Adriana, Big Pussy, Silvio. Ce sont les Sopranos, donc j'ai intérêt à être prêt, hein. Ce podcast est disponible sur Audio Now, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcasts.